Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Le sens de la fête, un podcast de Christophe Payet pour Nick, la radio.
Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat ? En tout cas, pendant plus d'un an, un drôle de virus nous a empêchés de faire la bringue. En club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région, dans les campagnes, la bamboche, c'était fini, paraît-il. Pourtant, la fête qui est en train de renaître nous rassemble, nous transcende, nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, nous explorons la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est faire chanter les gens. Il y a vraiment cette énergie qui était incroyable. Et je suis sortie des platines, j'étais vidée, je me suis mise à pleurer tellement c'était intense en émotion. Mais ça m'arrive encore de pleurer à la fin de mes mix, je sais pas pourquoi. Ouais.
Elle avait enfilé sa plus belle robe léopard, un imprimé qui ne doit rien au hasard. Dans ses teufs, Barbara Butch aime célébrer la cagole et son supposé mauvais goût. Mais pour la DJ, la cagole est surtout un symbole d'extravagance et de liberté. Pas d'élitisme sur le dance floor, la fête doit être populaire ou ne pas être du tout. Un blaze de first lady américaine, avec un twist qui veut tout dire. Derrière Barbara et son côté Barbie girl, il y a la butch, la garçonne, la lesbienne à tendance masculine. Après avoir au tournant des années 2000 découvert le Pulp, mythique club lesbien parisien, elle conquiert les DJ booths de la capitale pour montrer à tous et à toutes que les grosses comme les gouines existent derrière les platines. Barbara Butch est devenue la première dame des nuits queer. Grosse, Gwyn, ces deux mots, elle les affiche volontiers en majuscules sur son corps qu'elle exhibe sans complexe sur Instagram, en couverture de Télérama ou en soirée. Fille d'immigrés, juive et fière de l'être, son existence même est politique et sa vision de la fête aussi. Artiste engagée, DJ militante, elle mixe pour les réfugiés, les jeunes LGBT et pour tous ceux qui voudraient être libres d'aimer et de danser. Pour elle, les platines sont une arme, le dance floor son champ de bataille. Barbara Butch est fan de Diams et ce n'est pas l'école qui lui a dicté ses codes. On m'a dit qu'elle aimait la fête, alors voilà de la boulette. Barbara Butch, bonjour.
Salut, salut.
La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand ?
C'était la semaine dernière. Je suis allée boire des coups avec des copains, sur leur toit. Si tu parles de faire la fête en club, alors là, je pense que je m'en souviens même pas.
Je parle en général, parce que les deux
ouais,
comptent.
Ouais, j'ai fait un peu la fête la semaine dernière. Ouais. Mais sachant que je bois pas beaucoup, je sais pas si c'est vraiment considéré comme la fête par les gens, mais
je fais la fête quand même. Ouais. Il faut boire pour considérer qu'on fait la fête ?
Il y a plusieurs lectures de faire la fête pour plein de gens. C'est, alors, t'as fait la fête, ça veut dire, est-ce que t'as pris des drogues ou bu ou quoi ? Et moi, j'ai fait la fête, mais j'ai pas bu.
Et pas pris de drogue.
Ah ça.
Ça, on n'en parlera pas. Et du coup, toi, ta définition de faire la fête, c'est quoi ? Quand est-ce que tu considères que...
Moi, je fais la fête quand je retrouve mes amis, quand on se marre beaucoup, quand on danse pas mal. Et quand on rencontre du monde et quand on partage. Et puis surtout, on se retrouve autour de la musique la plupart du temps. Soit la musique, soit la bouffe.
C'est bien, c'est deux bonnes valeurs. C'est important pour toi de faire la fête comme ça ? Ça l'a été dans ta vie ?
Ah ouais. Ben moi, j'ai toujours... j'ai commencé à faire la fête assez jeune. Et ouais, ça a toujours été important parce que... moi, je suis de la génération où on n'avait pas vraiment... Enfin, il y avait Internet, mais il n'y avait pas les réseaux comme il y a aujourd'hui. Étant issue de la communauté LGBT, la fête et les lieux de fête, c'était le seul moyen pour moi de faire des rencontres amicales et amoureuses. Donc, des rencontres de mon milieu... sociale, on va dire. Donc c'était, ça a toujours été important et ça a toujours une place centrale dans ma vie. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui sont mes amis aujourd'hui sont des gens que j'ai rencontrés en faisant la fête. C'est des gens, des amis qui, de 20 ans d'amitié, quoi.
Qu'est-ce que tu recherches du coup ? Ça va être principalement la sociabilité, si je comprends bien.
Alors, la sociabilité et le lâcher-prise aussi. Le lâcher-prise sur le quotidien et aussi, en fait, se reconnecter avec son corps sur le dance floor. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très central et qui l'a beaucoup été, plus encore quand j'étais plus jeune. Mais voilà, ce besoin de danser, de transpirer, de décharger toutes les pressions du quotidien, ça a toujours été quelque chose qui était très important pour moi.
Alors revenons un peu aux origines. Je crois que tu es née dans une famille juive assez traditionnaliste à Paris. Mm-hmm. Raconte-nous un peu ton enfance, ton contexte familial. Est-ce que ça faisait la fête quand tu étais petite chez toi ?
Alors en fait, moi j'ai un papa qui est marocain et qui parlait pas très bien français. Du côté de ma mère, donc famille juive d'Europe de l'Est, donc avec un arrière-grand-père, parce que j'ai mes arrière-grands-parents longtemps, qui était polonais, donc avec un accent polonais. Et donc il y avait des conversations entre les deux qui étaient assez drôles, entre le vieux juif polonais et le jeune juif marocain, qui se comprenaient à peine, mais ils apprenaient à parler ensemble. Et donc il y avait un peu ce truc-là, cette mixité sociale, raciale et tout ça, qui faisait que, en fait, j'ai toujours été élevée là-dedans, dans le partage, dans la fête, dans la joie. Et puis après, par contre, comme moi j'ai grandi dans le 7e arrondissement de Paris, parce que mon père voulait absolument, enfin, il était jeune, et pour lui, Paris, vivre en France, c'était genre habiter à côté de la Tour Eiffel. C'est de la Tour Eiffel, donc moi je dis la Tour Eiffel. Et donc il voulait absolument vivre par là-bas, sauf que le 7e arrondissement, c'est hyper riche. Et donc du coup, on a vécu pendant, jusqu'à mes 15 ans, je dormais dans la même chambre que mon frère, dans un appart qui faisait, 35 mètres carrés. Mais je me suis confrontée à l'école, à la bourgeoisie, à une culture que je connaissais pas. Enfin, même si genre je suis française, ma mère est née en France, ma grand-mère est née en France, mon arrière-grand-mère sont nées en France. Il y a toujours eu ce truc, les Juifs sont pas vraiment français. Et donc je l'ai vachement retrouvé à l'école, où là j'étais confrontée à la France, quoi. Moi j'étais avec mes copains, enfants d'immigrés, fils ou filles de gardiens d'immeubles, et ensemble on faisait la fête. Du coup. Mais vraiment, genre très petit, moi je mixais déjà à 8 ans.
À 8 ans.
Et je faisais les booms. Et du coup, forcément, en fait, tous les autres étaient là. Oui, nous, on n'a pas du tout cette culture de faire la fête. Et ils voulaient tous venir en fête, sauf que nous, on les jetait. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est hyper drôle, c'est que tous mes copains d'enfance sont tous PD et Gwyn. Tout ça, c'est hyper drôle. Je sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais.
Mais déjà, la fête, c'était un lieu de sociabilité homosexuelle pour toi à 8 ans.
En fait, moi, je savais pas que j'étais homosexuelle. Je savais pas non plus que mes copains, et je pense qu'ils le savaient pas non plus, qu'ils étaient pédés. Mais en vrai, je me suis rendu compte que dans la fête aussi, il y a quelque chose de très culturel, et que mes copains qui étaient issus de l'immigration étaient beaucoup plus dans la fête et le partage que les autres. Enfin, je suis désolée de dire ça. Mais bon, il y avait les repas de famille, les machins. Nous, on était tous, peu importe notre religion, mais toujours très heureux de se retrouver. Dans la religion juive, il y a quand même le vendredi soir, c'est Shabbat, c'est la fête du Shabbat. Donc il y a vraiment ce mot fête qui est quand même là hyper souvent. Et donc il y avait vraiment ce truc de nous on était hyper contents de se retrouver et tout ça en famille quand on avait des gros trucs, où moi j'allais chez mes copains, la mère de mon copain Mario faisait à manger pour tout le monde et tout ça. Nous, c'est notre culture et c'est vraiment la fête. Et en revanche, si j'allais chez mes copines Clémentine et Constance, alors prenez votre pain avec du chocolat à l'intérieur, donc, et un petit verre de lait, allez dans la chambre qui fait la taille de mon appartement. Et du coup, je sais qu'à l'époque, mes copines d'école voulaient tous venir chez moi, parce qu'elles savaient que déjà mes anniversaires, c'était toujours la boum, et que, en fait, je sais pas, il y avait un sentiment d'amour, quoi. Peut-être qu'elles trouvaient pas dans leur environnement.
Comment tu mixais à 8 ans ? Tu peux nous raconter concrètement, t'avais quoi ?
Non, en fait, moi, j'ai demandé très tôt, pour mon anniversaire, une Janifi avec 5 CD, des trucs qui tournaient et tout. Mais bon, c'était le truc de la famille, mais moi, je l'avais pris comme mon cadeau. Et donc, j'avais 5 CD qui tournaient, mais je ne mixais pas du tout. Mais en fait, je passais d'un CD à un autre. Après, je faisais mes compiles, enfin mes mixtapes. En fait, il y avait un double lecteur cassette, du coup, il y avait la radio.
Maintenant, vous allez allez entendre. Top d'un bloc. Uniquement sur Fun Radio. Fun Radio.
J'ai des très très fans de Fun Radio, mais genre vraiment hyper fan de Fun Radio. J'écoutais Love in Fun. J'allais même devant la radio à attendre des idoles. Genre, j'ai rencontré Bon Jovi, j'étais dégoûtée parce que ils nous ont même pas regardé. Je sais même pas, genre, je peux même pas aujourd'hui te dire que chante Bon Jovi, j'en sais rien. Mais en tout cas, à l'époque, bah, je le savais. Et donc, je faisais record, stop. Je faisais des cassettes comme ça, donc des mix, quoi. Mais de temps en temps, il y avait aujourd'hui chez Casto et bah, voilà. Et ça avait...
un petit morceau de pub dans le mix.
Exactement. Mais voilà, et c'est comme ça que j'ai fait. Et puis après, vraiment, genre, au boom, tout le monde me disait, ah, tu veux pas mettre la musique. Et moi, j'étais genre trop contente. Et j'étais trop contente parce que j'avais tellement pas envie de danser des slow avec des vieux mecs avec des boutons. Donc je préférais derrière, enfin sur la radio quoi.
Et alors après ces booms à l'âge de 8 ans, tes sorties ensuite, tes premières vraies sorties, les clubs, les boîtes de nuit, ça ressemblait à quoi
Alors ma première sortie en club, genre vraiment c'est à 16 ans, c'est pour mes 16 ans. Et c'est mon oncle qui m'a emmenée au Rex. Donc le frère de ma mère qui sortait vraiment tout le temps, qui m'a emmené au Rex. Et moi, il était hyper tôt, hein, parce qu'il n'y avait personne. C'était un mercredi, je me rappelle vraiment comme c'était hier. Donc j'avais emmené mon pote Basile. Et donc j'ai fait mes 16 ans là-bas et je suis arrivée. Et il m'avait genre accueilli avec un grand plateau de bonbons et tout. Et je m'en rappellerai, mais genre toute ma vie. Et c'était la première fois que je voyais des platines. En plus, c'était un club mythique. Donc à la base, le videur ne voulait pas me laisser rentrer parce que j'avais 16 ans. Mais comme j'étais avec mon oncle... Du coup, t'as vu, t'sais, il m'a fait rentrer. Et voilà, j'ai dû rentrer à 5h du matin. Et j'avais de la chance parce que mon arrière-grand-mère habitait au rue du Faubourg-Saint-Denis, donc vraiment à côté. Donc j'ai pu rentrer. Et mon lycée était vraiment à côté. Donc je suis rentrée le matin, j'allais direct en cours. J'ai dormi 2 heures, je suis allée en cours. Et c'était ma première nuit blanche comme ça. C'était vraiment génial, ça m'a donné envie d'y retourner.
Et t'y retournais ?
Et ben, j'y suis retournée, mais pas tout de suite, parce que j'essayais de travailler, quoi. Et donc en cours, mais j'ai très vite fait la fête en allant au Pulp, qui était le club lesbien. Et je me disais, ah là, mais je pourrais jamais rentrer dans un club. Je m'étais fait recaler du Queen. Ouais, mais bon, il paraît que la physio était tellement méchante. Enfin, elle l'a été, mais je veux dire qu'en général, elle avait cette réputation. Et donc, j'ai jamais réussi à rentrer au Queen. Je me suis toujours fait recaler. En revanche, au Pulp, j'arrivais à rentrer et je faisais la navette parce qu'à côté, il y avait un club qui s'appelait le Score. Et moi, j'avais pas du tout de copine lesbienne. En revanche, donc, j'avais mes copains d'enfance qui étaient pédés, qui le sont toujours. Et donc, on allait, je les accompagnais au Score. Et eux, ils voulaient jamais venir avec moi au Pulp. Mais je descendais, voilà, au Score. Donc là, ils passaient de la musique. C'était house music. Vraiment fin 90, début 2000, ou alors des trucs vraiment pétés, genre Chantal Goya et Bernard Minet, enfin des trucs comme ça.
Comme un arc-en-ciel courageux, rouge, rose, vert, jaune et bleu, bioman.
Et au Pulp, bah, là c'était les révélations musicales, c'était Robotini, Cardini, Smag et Chloé, donc vraiment, et c'est ce qui a réveillé. Chez moi, l'envie de faire ce métier, quoi, de mixer.
Et alors, avant que tu découvres le Pulp et cet univers de la boîte lesbienne, est-ce que tu te sentais exclu des clubs classiques, des clubs hétéros
En fait, non, je m'en suis exclu toute seule parce que j'avais pas du tout envie de faire la fête avec les hétéros. Je suis désolée, je suis peut-être hétérophobe un peu, je sais pas. Mais non, mais en fait, ça me disait rien du tout. Déjà, dans les bars, c'était la misère... avec les mecs qui te mettent des mains aux fesses toutes les 2 secondes, qui s'approchent, qui te parlent à 2 centimètres de la bouche, t'es mignonne, tu veux pas que je te parle dans les mains. Vraiment, j'avais pas du tout. Il y a des meufs qui font ça, hein. Mais bon, je préfère que ce soit une meuf qu'un mec. Enfin voilà, à chaque fois que je me retrouvais dans des bars comme ça, c'était pour faire plaisir à mes copines, parce que du coup, j'avais vraiment beaucoup de copines et je les ai toujours des copines hétéros. Mais en vrai, c'est des endroits où j'ai jamais été à l'aise, donc j'ai jamais été rejetée ou exclue. C'est moi qui me sentais pas à ma place. Donc, quand j'ai découvert les clubs lesbiens, enfin en tout cas le Pulp, parce que les autres j'y allais pas, mais ça a été une découverte, bien que difficile quand même, parce qu'il y a ces trucs un peu où on a toujours l'impression que les clubs, les bars, il y a un petit côté élitiste aussi, qu'on peut pas rentrer partout. Moi j'ai mis par exemple vachement de temps à aller à la Mutinerie, alors que...
Donc la Mutinerie...
La Mutinerie, c'est un bar qui est lesbien, plutôt révolutionnaire, lesbien, trans, PD...
C'est à Paris, pas loin du centre Pompidou.
Et qui est à Paris, qui est rue Saint-Martin. En fait, même moi, genre, je me disais, ah là là, est-ce que je vais être à l'aise? Est-ce que ceci? J'avais l'impression que c'était réservé à une élite révolutionnaire queer et que moi, j'y aurais pas forcément accès. Et en fait, je me suis retrouvée dans le même, un peu comme bah, quand j'avais 17, 18 ans et que je découvrais les bars à Paris, où je me disais, ah ouais, pour aller aux Scandaleuses, parce que c'était le bar de Paris, les Scandaleuses, il fallait être un peu stylé, avoir des piercings, plein de tatouages et tout ça. Et en fait, non, et je pense qu'il faut aussi apprendre à aller vers l'autre et puis à envoyer chier en fait les gens aussi qui tiennent des bars et leur dire descends de ton nuage, tu tiens un bar, mais moi je suis une humaine, enfin je suis quelqu'un vraiment, moi j'ai une communauté de personnes qui me suivent, des gens qui sont assez jeunes, et je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà lu parce que je lis tous les messages qu'on m'envoie, j'y réponds tout le temps, et vraiment il y a des jeunes qui osent pas la mutinerie parce qu'ils se disent qu'ils vont pas trouver leur place ou parce qu'ils sont pas assez déconstruits, parce que ceci, parce que cela. Et vraiment, moi, je leur dis, enlevez-vous la pression des épaules parce que personne n'est parfait. Même les personnes qui travaillent derrière un bar, et le bar le plus connu soit-il ou quoi, en fait, personne n'est complètement déconstruit, complètement politisé. Et en plus, on est tous à des endroits différents dans nos vies. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes rapports, les mêmes valeurs les uns avec les autres, quoi.
Le Pulp, donc on rappelle le club lesbien assez mythique qui a fermé en 2007. Toi, t'y vas à quel moment, à quel âge? Est-ce que d'ailleurs ça t'intimidait pour le coup d'y aller aussi?
Ah ouais, ouais, bah bien sûr, ça m'intimidait de ouf parce que le Pulp, c'était quand même déjà, ça a toujours été une institution. Et puis c'était un club qui était petit, donc il n'y avait pas non plus. Enfin, les places étaient chères quoi pour rentrer, mais en fait, arrivé dedans, bah, moi j'y allais beaucoup seule. Et j'ai jamais eu de soucis.
À quel âge?
À partir de 18 ans, jusqu'à la fin. Après, je sais pas très bien calculer, mais je crois que c'est 25 ans, 26 ans. Je crois que j'y suis jamais allée un samedi soir. Alors le samedi soir, c'était vraiment, je crois, exclusivement lesbien. Mais j'y allais plutôt les mercredis et jeudis où c'était plus rock'n'roll et plus électro. La grande époque de l'électroclash.
Et du coup, à l'intérieur, ça ressemblait à quoi? C'était quoi l'ambiance?
C'était un peu tous les styles de meufs. Il y avait des butch, il y avait des femmes. Et il y avait aussi, c'était ouvert aussi aux mecs, pas seulement PD, mais aussi aux mecs hétéros, copains des filles, quoi. Donc c'était assez ouvert. Il y a toujours eu beaucoup de respect entre les personnes. Et puis c'était un lieu où, voilà, la musique... c'était vraiment une musique de qualité. Enfin, t'es allé au Pulp, pas seulement pour pécho ou boire des coups, mais c'était vraiment pour aller voir des DJ, les écouter, danser dessus, prendre des extras, enfin, bon, ou pas. Mais vraiment, c'était... Enfin, tu te déplaçais pour le DJ. En tout cas, moi, je me déplaçais à chaque fois qu'il y avait Jennifer Cardini qui mixait, j'y allais.
Et elle a beaucoup joué.
Et elle y jouait presque deux fois ou trois fois par mois. Quoi.
Du coup, ça, c'est vraiment un moment qui a été et une découverte qui a été marquant dans ta construction.
Bah, dans ma construction musicale aussi, pas mal. Mais ouais, effectivement, c'est des moments qui ont énormément compté dans ma vie et dans ma jeune construction de petite lesbienne, quoi. Après, il n'y avait pas du tout les mêmes enjeux politiques qu'avant. C'est-à-dire que je pense que la fête a toujours été politique et le dancefloor, surtout dans la communauté LGBT, a toujours été politique, mais qu'on s'en rendait pas forcément compte. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus cette conscience.
On va en reparler de cet aspect politique du dancefloor, évidemment. À 22 ans, je crois que tu quittes Paris pour Montpellier, où tu vas tenir un restaurant, l'Arrosoir. Alors, j'allais te dire, c'est là que tu vas commencer à mixer, mais non, puisque je viens d'apprendre que tu avais commencé à mixer à 8 ans. Mais, mais autrement, devant du public, dans un lieu, c'est à ce moment-là, dans ce restaurant, que
tu... C'est un peu par hasard. En fait, j'ai un copain qui a passé le jour de l'inauguration, qui passait des vinyles et il a laissé les platines au resto. Je crois qu'il les a laissées 3 ans, en fait. Et du coup, j'ai commencé à jouer avec les vinyles. Et donc, je m'entraînais la journée. Et du coup, je faisais des soirées où les gens amenaient leurs vinyles et je les mixais les uns avec les autres. Et j'avais aussi deux magasins de hip-hop en face du restaurant. Et donc, du coup, j'ai appris à scratcher... Et le soir, on passait de la musique et on dansait et c'était trop cool.
Je crois qu'aussi, c'est pas mal, toujours à Montpellier, c'est pas mal la Gay Pride, la Marche des Fiertés qui va te mettre le pied à l'étrier. Tu as beaucoup mixé à cette occasion.
Ouais, carrément. En fait, la première fois que la Montpellier Pride m'a demandé de mixer. J'étais hyper surprise parce que, enfin, et impressionnée parce que je disais ah non mais moi je suis pas DJ, je peux mixer devant une foule et tout. Et puis finalement bah ça l'a fait. Je l'ai fait pendant 10 ans, 11 je crois même. Enfin, c'est des souvenirs incroyables de mixer devant des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est des moments d'adrénaline vraiment intenses. Enfin, il y a vraiment une Pride, c'était la Pride de 2013, qui a été un moment incroyable. Enfin, parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait 15 000 personnes sur le parvis de la mairie. Et j'étais en train de mixer et je me suis rendu compte du pouvoir en fait, que j'avais et que... ça pouvait être merdique en deux secondes et que les gens pouvaient partir en deux minutes, donc il fallait que je les garde. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est faire chanter les gens. Il y a vraiment cette énergie qui était incroyable. Et je suis sortie des platines, j'étais vidée, je me suis mise à pleurer tellement c'était intense en émotion. Mais ça m'arrive encore de pleurer à la fin de mes mix.
Ah ouais?
Et souvent, en fait, il y a des trucs qui sont, enfin, des moments qui sont hyper puissants. Là, cette année, la marche, donc moi, j'ai marché sur le char du pôle des luttes, donc qui regroupait Accept ST, l'association Accept ST, Act Up, la Sophière et d'autres associations. C'était la première fois, en fait, que je remixais devant un public depuis le confinement, enfin tout ça. Et là, du coup, il y avait vraiment beaucoup de public. Hein. Enfin, c'est des dizaines de milliers de personnes. Et en fait, j'aurais pu choisir de faire un truc très club, électro et tout, assez pointu. Et finalement, je me suis dit qu'en fait, ce dont on avait besoin, et ce dont j'avais besoin aussi, c'était qu'on se retrouve, qu'on danse ensemble et qu'on chante ensemble. Et du coup, bon, moi, je suis une très grande fan de Diam, pour ne pas dire la plus grande fan de Diam. J'ai mis... La Boulette, c'est mon morceau fétiche, mais j'ai mis aussi Big Up. Et en fait, de voir tout le monde crier le rap de La Boulette.
Ah ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non.
C'était hyper intense et hyper émouvant pour moi et pour les gens aussi, de passer comme ça des chansons peut-être un peu has-been, qui finalement... En fait, tout le monde connaît, ça fait partie de la mémoire collective. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, la fête, c'est ça. C'est aussi, en tout cas pour moi, c'est pas seulement faire danser les gens sur des trucs hyper pointus et recherchés, mais c'est chercher, en fait, l'émotion, ce que ça provoque en soi, ce que ça déclenche comme souvenir, et puis après, ce que ça crée comme partage. Et donc, passer, par exemple, France Gall, J'ai besoin d'amour, et que tout le monde ou résiste, et voir tout le monde lever le bras pour dire résiste, ou lever le bras pour Amel Bent, ben, y a quelque chose qui se crée, il y a des souvenirs qui se créent. Et moi, c'est vraiment, enfin, c'est ma définition de la fête et de la fête politique.
Comment on fait, enfin, est-ce que la fête est en soi politique? Déjà, de base.
Je pense que la fête est en soi politique parce que c'est... En fait, à partir du moment où on se réunit pour lâcher prise sur l'impact de la société sur nos vies, je pense que c'est politique. Faisant partie de la communauté queer, mon existence, ou fille d'immigrée, ou petite fille juive, petite fille de déportée, je pense que mon existence en soi est politique. Donc forcément, tout ce que je vais faire aura un sens politique, et la fête en fait partie.
Concrètement, comment tu fais pour mettre de la politique, pour mettre un message politique dans la fête? C'est le message
porté
par
Amel Bent, viser la lune. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Bah, en fait, ouais, ça va être ça. Ça va être mettre des artistes dont l'existence est politique. Enfin, Diams, au-delà de ses chansons que j'adore, enfin, ce qu'elle est devenue, pour moi, c'est un rôle modèle, et son existence est politique. Il n'y a rien qu'à voir que comment ça fout la merde auprès de tout le monde juste parce qu'elle s'est convertie à l'islam, en fait. Et donc, passer voilà, des morceaux de Diams, ou pas passer des morceaux de Michel Sardou, bah, c'est politique, parce que je passe Diams, mais je vais pas passer Michel Sardou parce qu'on sait que c'est un gros raciste. Donc, c'est comme ça, en fait, que je fais passer mes petits messages, ou aussi à l'aide de mon corps, ou des stickers que je vais mettre sur mon ordi si je viens avec mon ordi, mais avec mon corps en écrivant des choses dessus, comme quand je suis allée à Cannes et que j'ai écrit « Les grosses gouines existent sur mon corps ». Et c'était dans une grosse fête. En fait, on peut faire passer des messages et être politisé par plein de manières pendant la fête.
D'ailleurs, je lisais qu'en 2017, tu avais affiché un drapeau LGBT en Lituanie sur un bâtiment qui, quelques années auparavant, avait vu flotter le drapeau du Troisième Reich. Ça aussi, ça s'est...
En fait, donc c'était à Klaipeda, où j'ai été bookée par le Centre chorégraphique de Caen, dirigé par Alban Richard, pour mixer... Donc là-bas, parce que lui, il organisait voilà, un truc de danse là-bas. Et en fait, il m'a dit, voilà, on va mixer dans cet endroit-là. Mon grand-père était lituanien. Et toute ma famille a été déportée de Lituanie. Donc, il y avait vraiment un truc qui était chargé d'histoire. Et je l'ai vraiment senti arriver là-bas. Et donc, je me suis dit, je suis dans un pays là-bas qui est chargé d'histoire. Les fêtes dont on se rappelle et les gros rassemblements dont on se rappelle, c'est la prise de parole d'Adolf Hitler sur cette place, dans ce même théâtre et tout ça, avec tous ces drapeaux du Troisième Reich affichés. Et je me suis dit qu'en fait, je pouvais pas rien faire. Et je crois que vraiment, ça a été un tournant aussi dans ma manière d'envisager l'espace et comment le prendre et comment justement faire quelque chose d'engager. Et je me suis dit, c'est rien, c'est un drapeau, mais quand même, ça va avoir du sens. En fait, il faut savoir que les danseurs, quand ils arrivaient en Lituanie, sur Grindr, qui est une application de rencontre gay, il y avait écrit « Attention, n'utilisez pas l'application ici, car vous risquez de vous faire agresser ou de vous retrouver dans des guet-apens ». Et je me suis dit, mais c'est horrible, c'est une violence atroce. Donc si au moins j'envoie le message à une personne qui est dans le public, qui est gay, en lui disant, écoute, c'est quoi, nous on est là, enfin tu vois, genre t'es pas seule, c'est important. Du coup, j'ai mis ce drapeau, et il y a les flics quand même qui sont venus, enfin le directeur du théâtre voulait l'a enlevé, et je lui ai dit qu'en fait c'était complètement hypocrite, parce qu'il savait très bien que les danseurs qui venaient, et qui faisait la promotion du coup du théâtre, était gay. Mais il disait, oui, mais je veux pas, ici c'est pas politique. Et je lui dis, tout est politique et l'art c'est politique, c'est la base, c'est là où on crée en fait de la politique, on crée des espaces, et que son théâtre doit être un espace safe pour toutes les personnes issues de la communauté LGBT, puisque la société ne l'est pas, et qu'au moins son théâtre devait l'être. Il y a aussi des gens du coup qui s'emparaient parce qu'ils ont vu le drapeau LGBT, et il y a une meuf qui est arrivée et qui a pris le drapeau et qui a commencé à danser avec, et c'était vraiment un moment magique. Et après, j'ai reçu du coup des messages de personnes qui étaient à Klaipeda et de Lituaniens qui m'ont dit qu'ils avaient été hyper touchés, ou même je voyais des clins d'œil, et je me suis dit, voilà, ça a un sens, et je pense que c'est important de donner du sens à ce qu'on fait. En tout cas, là, moi, si j'avais été dans leur situation, ça m'aurait fait plaisir de voir quelqu'un qui se soucie vraiment de moi et pas juste en surface avec un carré bleu sur les réseaux sociaux.
Le carré bleu pour les Ouïghours. Pour revenir un peu à ton parcours, en 2013, je crois que tu quittes Montpellier pour revenir à Paris, où tu vas commencer à mixer dans un bar, le bar des Souffleurs dans le 4e arrondissement. Puis assez rapidement, finalement, tu deviens une des nouvelles figures des nuits LGBT à Paris. Comment ça s'est passé ?
En fait, j'ai fait un truc, c'est-à-dire que je me suis infiltrée sur les profils Grindr des mecs à Paris. Enfin, en fait, le point de départ, c'est quelqu'un qui avait posté une photo de lui sur Grindr, et en fait, dans le fond, j'ai vraiment ma petite tête au fond du truc. Et donc, quelqu'un a dit, putain, t'es vraiment partout. Et là, ça a fait un peu le buzz où les garçons se prenaient en photo, et moi, j'arrivais derrière. Comme ça, un peu discrètement, je faisais des trucs, genre je buvais une bière et tout. Et donc j'ai infiltré comme ça le milieu gay, en faisant du photobomb de leur photo Grindr. Et donc ça a vachement fait parler. Puis j'ai commencé à mixer au Rosa Bonheur grâce à Sophie Morello qui organisait les soirées kidnapping. Et c'est là où j'ai décidé d'arrêter mon job alimentaire. Où je me suis dit, maintenant je me concentre uniquement sur ça, quitte à galérer. Je préfère mettre mes énergies autour de ça, et plus le temps va passer et plus ça va, ma situation va s'arranger.
C'était quoi l'état des nuits parisiennes à cette époque-là, en particulier de la teuf LGBT sur Paris à cette époque ?
Moi, je sais qu'en 2013, j'allais beaucoup au Trop Beach, à la Java. Enfin, j'allais vraiment beaucoup à la Java. Enfin, moi, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup la fête, et il y avait vraiment de quoi faire. En fait, on avait un peu moins de problèmes de voisinage, de sauts de javel et de choses comme ça. Je trouve que c'est de pire en pire aujourd'hui, mais il y avait quand même beaucoup de fêtes, beaucoup de soirées, surtout de soirées dans les bars. quand je suis revenue, j'étais beaucoup moins en club, à part pour aller voilà, à la Trobiche avec les copains, mais c'était plus vraiment les grosses soirées en appart où on est 50 dans un 20 mètres carrés, les afters n'ont pas fini. Je préférais d'ailleurs les afters que les soirées en club. J'ai toujours préféré les beefers et les afters que les soirées en club.
Ah ouais,
ouais. Bah, parce que c'est là que tu rencontres des gens, que tu parles, que tu fais nimpe et que tu pécho.
Et entre l'after et le before, tu préfères quoi?
Bah, aujourd'hui, le before, parce que je vais plus jusqu'à l'after. Je vais même pas jusqu'à la soirée. Mais non, maintenant, c'est le before. Mais avant, non, c'était les afters. C'est les afters, j'ai adoré rentrer de soirée, de rencontrer des gens et de voir que je venais de passer toute la soirée avec des gens que j'avais pas vu de la soirée, en fait. Et je les découvrais à 9h du matin. Ah ouais, c'était là, ah ouais, sympa.
Tu parlais du Rosa Bonheur, t'organises les soirées La Patchole au Rosa Bonheur. Parle-nous de ces soirées un peu, c'est quoi?
Alors La Patchole, donc La Patchole, je l'ai créée il y a 3 ans. C'était pas au Rosa Bonheur, c'était à La Jaja, qui est dans le deuxième, un tout petit bar. Et en fait, l'idée, c'est de faire une soirée où le dress code, c'est cagole, donc ça veut dire... c'est fluo, c'est léopard, c'est les marques et les fausses marques, hein. Pucci à la place de Gucci, c'est le toujours plus. Enfin, moi, j'avais envie de faire une soirée Miss & Mister Camping. C'est les musiques de la honte, c'est-à-dire c'est mais ce qu'on écoute tous, hein, en soirée ou en after. Attends, je vais faire une YouTube, je te mets un petit Britney. Bah, en fait, là, c'est vraiment ça. Ça va de Britney à Barbie Girl, les rois du monde. Vraiment, je pensais pas que ça marcherait à ce moment-là. Parce que je me suis dit que, enfin, à Paris, les gens auraient un peu honte de venir dans une soirée où vraiment on écoute des trucs comme ça. Et en fait, ça a trop, trop bien marché. Ça a si bien marché à la Jaja. Enfin, la rue était remplie. Sauf qu'en fait, c'est un tout petit bar qui doit faire la taille de la pièce dans laquelle on est. Donc, assez petite. Et en fait, ça a cartonné. Et là, Zouzou, la patronne du Rosa Bonheur, m'a dit tiens, tu peux pas venir la faire au Rosa. Et ça a cartonné, là, ça fait 1 an et demi qu'on l'a pas fait. Là, je vais la refaire, là, au Rosa Bonheur. Je suis un peu stressée. J'ai trouvé une meuf qui me fait une manicure parce que c'est dans la peau d'une influenceuse qui habite à Dubaï, quoi. C'est la cagole pour moi aujourd'hui. C'est un peu ça. Et donc là, je me mets dimanche dans cette peau-là. Donc j'ai rencontré une meuf qui s'appelle Jessica, qui va me faire les ongles et qui va me faire plein des ongles longs avec écrit Gucci, Versace, Louis Vuitton. C'est aussi rendre hommage aussi aux cagoles que j'adore parce qu'en général, les cagoles, c'est des meufs qui ont du caractère, qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui en ont rien à foutre du regard des autres. Et la soirée, c'est ça. C'est vraiment, on n'en a rien à foutre du regard des autres, que ce soit sur la manière dont on est habillé ou ce qu'on écoute. Et donc moi, j'ai même, enfin, dans ma manière de mixer, parce que du coup ça stresse un peu les gens qui veulent me booker parce qu'ils ont toujours peur, ils disent elle va nous faire un mix patchol ou elle va nous faire un mix électro, mais qu'est-ce que... Et en fait, je fais toujours les deux, il y a toujours des deux, il y a toujours de l'un ou de l'autre dans chacun de mes mix, et je l'assume complètement et même à 1000%, quoi. Mais je sais que ça embête pas mal des bookers parce que ils ont toujours peur que je mette un petit genre. Voilà, mais moi ça m'éclate. Et en vrai, c'est un peu un truc d'ego des gens qui disent ah oui, mais non, je veux pas être perçu comme beauf ou quoi. Et moi, j'adore la culture populaire que j'assume à 1000%. Et en fait, je pense que les gens ont vraiment du mal à assumer que parfois, qu'ils ont une culture populaire, qu'on a tous, en fait. Et moi, l'espèce d'intelligentsia, là, où tout doit être lisse, il faut écouter ça, il faut regarder ça. Et en fait, il y a ce truc-là, cette pression. J'essaie de faire en sorte de pas la ressentir. Et que les gens autour de moi la ressentent pas aussi.
Du coup, en fait, aller faire la fête habillée en cagole, c'est hyper politique, là encore.
C'est politique parce que c'est une manière de dire nique au système, quoi. Enfin, voilà, on n'est pas obligé d'aller au Rosa Bonheur habillé en Rico Wens. On peut très bien porter des fringues, une robe qu'on a achetée, léopard qu'on a acheté chez Kiabi, quoi. Il y a ce truc de un peu de faire redescendre les gens sur terre, sur de la simplicité, sur de la rencontre, et arrêter de montrer ce qu'ils ont ou ce qu'ils ont pas, ou ce qu'ils sont et ce qu'ils sont pas, parce que en fait, en plus, avec les réseaux sociaux, tout ça a pris énormément de place, c'est-à-dire de s'inventer une image et qui au fond La plupart des gens, il y en a plein, ils ont des milliers de followers, mais en fait, ils se sentent plus seuls que jamais. Et voilà, c'est connecter les gens sur des choses simples, qu'il n'y a pas de honte d'avoir une culture populaire, quoi, en fait. Et moi, ça m'a toujours mis la pression d'être jamais assez ou beaucoup trop. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, calme-toi, prends un ginto et nique, quoi.
Mes Britney, puis nique tout.
Exactement, en fait. Moi, j'ai plus le temps. Je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais j'ai plus le temps avec tous ces simagrées, quoi.
Il y a un truc vachement aussi d'empowerment féministe, en fait, dans cette démarche de rendre hommage à la cagole.
Ouais, bah oui, carrément. C'est d'empowerment à toutes les personnes qui se sentent minorisées, en fait, c'est tout. Et peu importe qu'on soit une meuf, qu'on soit un mec, un PD viril ou un PD folle, enfin, en fait, on est là, on existe, on a tous le droit à la fête et à s'amuser les uns avec les autres.
Un des grands combats, justement, c'est de rendre la fête plus inclusive, et à tous les niveaux, hein, c'est rendre la fête plus inclusive, qu'on soit gay, lesbienne, mais aussi qu'on soit gros, handicapé, descendant d'immigrés,
ouais,
peu importe.
Ouais, ou migrante, quoi. Ouais. Parce que, en fait, moi, j'étais pendant longtemps au BAM, j'étais la coordinatrice du pôle LGBT du BAM, c'est le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. J'ai arrêté, mais du coup, quand j'ai pris ce poste, j'ai appelé tous mes potes orga de soirée ou DJ pour leur dire d'ouvrir leur soirée aux migrantes LGBT qu'on avait au pôle, parce que s'il y a bien un endroit où... T'as besoin de... Enfin, en fait, t'arrives d'un pays où t'as pas le droit d'être gay, trans, bi, lesbienne ou que sais-je. Donc t'as rien. En fait, t'as pas de toit, t'as rien. Enfin, le seul endroit où tu peux rencontrer des gens, c'est en allant dans les bars ou en faire la fête. Sauf que la fête est hyper chère et hors de prix, qu'on te regarde de bas en haut avant de rentrer. Pour moi, c'était important que ces personnes-là puissent avoir accès à cette fête comme tout à chacun, en fait. Comme moi, j'en ai eu besoin quand j'ai découvert ma sexualité. Je veux dire, ces personnes-là arrivent dans des endroits où elles se disent « Ah, génial, je vais pouvoir être pédéguine », et puis en fait, on leur dit non parce qu'elles n'ont pas de thunes. Donc moi, c'est un truc que je ne peux pas accepter, donc j'aimerais bien que ce soit un truc qui devienne un automatisme, qu'il y ait tout le temps des places pour toutes les fêtes qui soient données à des associations, de manière à accueillir les personnes les plus précaires, qu'il y ait des aménagements aussi pour les personnes qui sont en situation de handicap, que ce soit des handicaps visibles ou invisibles. Alors je sais que c'est difficile de faire des espaces où il n'y a pas de son, des espaces calmes dans les fêtes, mais ça peut l'être. Puis se dire que, enfin, en fait, il pourrait y avoir aussi des tarifs solidaires, que ce soit sur les boissons, comme à l'entrée. On sait que, par exemple, les mecs gagnent 22% de plus que les meufs. Et ben, les meufs, elles pourraient payer 22% moins cher leur entrée, 22% moins cher leur conso, en fait. Je sais pas, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là, mais on vit dans une société capitaliste, donc c'est plutôt difficile. Mais c'est pour ça que le premier combat, c'est la lutte des classes.
La lutte des classes sur le dance floor.
Ouais.
Et ce discours, il trouve un écho aujourd'hui dans le monde de la fête à Paris, en France?
Franchement, ou... moi je pense qu'il y a beaucoup de surface, en fait. Après, moi je ne suis pas organisatrice de soirée, je ne suis pas patronne de bar, donc c'est difficile pour moi de faire changer les choses. Mais en tout cas, déjà, à mon niveau d'en parler et de refuser aussi d'aller dans certains endroits parce que je sais que...
Je refuse des dates?
Ah ouais, bien sûr, ouais. Ah mais il y a des trucs, c'est hors de question que je mette les pieds dedans, soit parce que je sais que l'endroit n'a toujours pas pris de position sur, par exemple, des agressions sexuelles ou des morts d'overdose ou des choses comme ça. Non, je dis non, en fait. Quand je vois que c'est des orgas qui sont des agresseurs ou des agresseuses, parce que ça existe, sexuelles, il est hors de question que... J'en fasse la promo, que j'y mette les pieds ou que j'y mixe. Enfin, c'est pas possible. Enfin, j'ai quand même des valeurs. Enfin, il faut que je sois cohérente aussi. J'ai un discours, je le tiens.
Pendant le premier confinement, tu avais lancé l'appart chez moi. C'était des fêtes virtuelles sur Zoom. On peut vraiment faire la fête en virtuel?
Ah ouais, mais tellement. Franchement, j'ai été très surprise de ces fêtes et c'est là où, en fait, j'ai pris vraiment conscience. La fête, elle existe partout. Donc moi, je mixais sur mon ordinateur et les gens suivaient la soirée sur Zoom. Et en fait, du coup, ben là, ça a donné une soirée inclusive parce que tout le monde était bienvenu, donc c'était gratuit. Les dernières, j'ai dû les faire payer parce qu'il n'y avait plus d'aide, enfin, j'avais rien du tout. il y avait des personnes qui étaient en situation de handicap physique, qui étaient genre jamais sorties, qui pour la première fois, en fait, c'est bizarre, hein, mais pouvaient sociabiliser comme ça dans un espace de fête. Il y a des couples qui se sont formés, il y a des demandes en mariage qui ont été faites. Une grand-mère qui était genre en Colombie et sa petite-fille, elle était en Australie. Et en fait, elle se souhaitait bon anniversaire comme ça. Enfin, mais c'était tellement mignon et il y avait vraiment plein de moments de joie, de larmes. La fin de l'appart chez moi, la première fin, enfin, j'ai mixé de 21h à 4h du matin. Et à la fin, tout le monde pleurait derrière leur écran, genre on va jamais se revoir, c'était incroyable. Finalement, on s'est revus 3 mois plus tard, mais... Mais il y avait vraiment ce truc. Et la dernière, là, de l'appart, c'était magique parce que je sortais du Covid, j'ai failli en mourir. Et en fait, je me suis forcée à la refaire un mois après avoir eu le Covid et j'étais encore faible et tout ça. Et en fait, les gens étaient absolument trop mignons parce que ils savaient que c'était mon anniversaire le 17 mars. Donc là, c'était le 17 avril et ils m'avaient fait plein de pancartes. Donc, bon anniversaire. Et c'était vraiment une vraie surprise. Je me suis dit, c'est quand même dingue parce qu'on arrive aussi à créer des surprises virtuelles. C'était magique. Il y avait plein d'émotions et j'aimerais tellement faire un appart chez moi dans la vraie vie. Mais je pense pas que les gens qui venaient à cette soirée, déjà il n'y a pas le même confort quand on est en club et quand on est chez soi, mais viendraient à une fête en réel, quoi. Parce qu'il y avait des familles, enfin voilà, c'est difficile d'aller à une fête avec son bébé qui dort à côté. Mais c'était vraiment un moment magique et je pense que vraiment ça restera gravé à jamais, quoi.
Et Luc, même tu pensais peut-être les faire perdurer après la crise du Covid, justement parce que c'était un...
Ben ouais, justement parce que ça permettait d'inclure des personnes qui vont jamais aux fêtes et puis parce que ça... Enfin voilà, le fait que ce soit accessible depuis n'importe quelle ville, depuis en fait il suffit juste d'avoir un ordinateur et de se connecter, je trouvais que c'était vraiment génial et moi je me dis que ça marchait. En fait ce serait trop bien que, mais après je pense que ça a un coût, mais que tous les établissements, les lieux de fête proposent un accès en stream. Moi j'aimerais trop, parfois j'ai vraiment la flemme de sortir. Par contre il y a des DJ que j'ai trop envie de voir à mixer, même si c'est à 3h du matin, je pourrais me réveiller et puis allumer mon ordi et me dire ah ben voilà le live il est là, ou alors être en soirée chez des potes et mettre le live. Voilà.
Donc toi tu serais consommatrice des streams alors qu'on n'en peut plus des streams de DJ depuis un an et demi.
Ben en fait moi effectivement, moi par exemple l'appart chez moi, l'idée c'était que justement je voulais pas qu'on me voit mixer. Je me disais oh là, je vais pas me filmer pendant 3h en train de mixer, les gens ils m'ont regardé mixer, genre je voyais aucun intérêt. Là, c'était vraiment pas moi qui étais en vedette, c'était vraiment les gens. C'était hyper dur à faire de mixer en même temps de mettre les gens en vedette. Mais le moment où les gens savaient que la caméra, entre guillemets, était braquée sur eux, c'était l'explosion. C'était vas-y, on sort tous nos costumes d'un coup.
tous nos meilleurs pas de danse.
Ouais, c'est ça. On fait la pyramide et tout ça, mais c'était vraiment drôle.
Et toi, tu l'as un peu dit, mais toi, t'aimes danser ?
Ouais, moi j'aime danser, ouais. J'adore danser même.
T'aimes danser sur quoi ?
J'aime danser sur tout, j'ai pas de limite, quoi. Même la country, genre, ouais. je pourrais trop délirer avec des boots, là, comme ça, puis faire un petit line dance.
Qu'est-ce qui te plaît dans la danse ?
Le rapport au corps, en fait, le lâcher prise. Depuis que je suis petite, mon père, en tout cas, je dansais souvent, on était dans les bras et tout. J'étais très fan, vraiment, quand j'étais toute petite, ma mère, elle m'a envoyé encore il y a quelques jours d'Erita Mitsuko et j'étais toujours en train de danser devant. Dès qu'il y avait le clip qui passait à la télé, je dansais dessus. Mais du coup, ça a été toujours un truc libérateur. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre. En fait, je pense que c'est important d'avoir des initiations comme ça à la danse quand on est petit. En fait, pas forcément apprendre une danse, mais en tout cas faire danser les enfants pour qu'ils prennent conscience de l'espace, de leur corps, pour qu'ils puissent lâcher et tout ça. Je trouve que la culture française, dès qu'on est enfant, on nous dit de bien se tenir, de pas trop en faire, de pas crier, de pas trop danser, de pas trop bouger et tout ça. Alors qu'en fait, c'est la base. En fait, la base, c'est prendre conscience de l'espace, prendre conscience de comme on est. Et je pense que la danse, dès le plus jeune âge, c'est un truc qui ferait que peut-être que les gens seraient un peu moins tendus dans le quotidien. Et je pense que les gens ont de plus en plus envie de se connecter à leur corps. Et je pense que la danse et le dance floor, c'est un des moyens les plus simples de se connecter à son corps.
Tu penses qu'on peut faire la fête tout seul ?
Bah ouais.
Ouais.
Moi, je suis la pro de la fête toute seule. Ouais, mais on peut faire la fête toute seule et on peut faire la fête à n'importe quelle heure de la journée. Moi, c'est toujours de la musique dans mes oreilles et je marche ou je suis dans le métro, je m'ambiance toute seule, quoi. Et en plus, là, le mieux, c'est qu'avec le masque, tu peux faire des playbacks de la mort. Et ça, c'est génial. Parce que t'es avec ton masque et puis tu chantes, je sais pas moi, Aya Nakamura. Et t'es trop Aya Nakamura quand t'es dans le métro ou Mylène Farmer, enfin, tu vois. Et puis du coup, tu regardes par la fenêtre. Parfois, je me mets des trucs un peu tristes. J'ai même une playlist sur Spotify. C'est genre, ça s'appelle, je crois que c'est comme si j'étais dans un film romantique des années 90. C'est le nom de la playlist. Et c'est vraiment genre, tu sais, tu colles ta tête sur la vitre et t'écoutes genre « I love you, always, forever, nanana » et puis t'es trop dans le truc, quoi. Donc ouais, tu peux t'ambiancer, tu peux faire la fête partout, tu te lèves le matin, tu mets un morceau, tu te dis « vas-y, aujourd'hui c'est ma journée », bon, tu marches dans la merde en sortant, mais c'est pas grave, t'as vécu ce petit moment, quoi.
C'est quoi pour toi les ingrédients, l'ingrédient le plus important pour qu'une fête soit réussie? Ça va être la musique, ça va être l'ambiance, ça va être le public, la bienveillance, le lien social?
La bienveillance joue beaucoup. Je pense qu'il faut faire attention les uns aux autres. Pour qu'une fête soit réussie, il ne faut pas qu'il y ait d'incidents, en fait. Et donc, il faut essayer de veiller les uns sur les autres. Il faut aussi qu'il y ait des espaces où les gens puissent apprendre la notion du consentement. Il y a une super association qui s'appelle Consentis Info qui fait un travail justement sur les dance floors et dans les fêtes. Et en fait, on dit souvent que il y a des problèmes avec les videurs et machin parce que par exemple un videur va être transphobe ou quoi. Je pense que le videur il a même pas conscience de ce qu'est vraiment les transidentités et je pense que on peut pas juste engueuler les gens quand ils sont pas au courant de ça en fait. Du coup, c'est faire de l'éducation et de la pédagogie auprès du personnel qui travaille. Donc, les videurs, les barmans, leur dire, bon, ben voilà, si tu as une personne qui arrive, je sais pas, avec des cheveux longs et une barbe et qu'elle te dit qu'elle va aux toilettes des meufs, ben, tu la laisses parce que tu sais pas quel est son genre, en fait. Enfin, ne présume pas. Et quand on fait de l'éducation et de la pédagogie, et ben, je pense qu'on arrive déjà à créer des espaces un peu plus safe.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête?
Darmanin.
Réponse acceptée.
Non, mais c'est ça. Je pense que c'est l'État, en fait. C'est l'État qui tue la fête. Et il n'y a que ça, en fait. Les préfectures qui ferment les lieux, qui empêchent à des fêtes de s'organiser. Il y a de plus en plus de bars qui ferment. On veut une ville silencieuse. On veut que les jeunes soient enfermés. On ne veut pas de trop de dégâts. Parce que si les gens commencent à se retrouver, ça veut dire qu'ils pourraient peut-être renverser le système. Ce qu'on veut. Ouais.
Là, on est au moment où on enregistre, on est à la veille de la réouverture annoncée des clubs. Est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que tu as prévu des choses? Tu as des dates?
Non, je fais que des trucs en extérieur cet été. Mais je pense que tout le monde en a besoin de retourner en club, de faire la fête ou de danser sur la plage, parce que c'est un peu ce qui va se passer cet été pour beaucoup d'entre nous. Enfin voilà, là, les seules fêtes qui ont eu lieu, c'était des fêtes un peu clandestines et tout ça. Et ouais, non, mais je pense que ça va faire du bien à énormément de monde.
Toi, t'as été dans les teufs clandestines depuis un an et demi?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, pas par choix. C'est parce que voilà, je vis ma petite vie de couple avec mes chattes, mon chien.
Et aujourd'hui, quand tu mixes pas, tu sors?
Bah, là, c'est un peu difficile. Il y avait
enfin,
pas trop.
Aujourd'hui, oui. Mais... de mais, façon générale, Covid, non, excepté en fait, Covid.
Non, franchement, ça fait un moment que je sors plus trop. Je suis plus en mode dîner. Voilà, avec les copains, les copines, mais c'est... Enfin voilà, j'ai plus 20 ans aussi. Je pense que si j'avais 20 ans, je serais la même qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire que je sortirais tout le temps et je rentrerais tous les jours à midi chez moi, quoi. Avec ma mère qui me ferait « Ah, j'ai encore nettoyé ton vomi
!» Alors, pour conclure sur ces beaux jolis mots, pour conclure, qu'est-ce que c'est au final pour toi que le sens de la fête, ça a raison d'être profonde?
Ben, le sens de la fête, c'est le partage. Le partage, l'échange et la tolérance. En fait, on peut ne pas s'aimer et on peut se tolérer.
Ouais. Le sens de la fête est un podcast de Nick La Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
Si tu devais choisir qu'une seule track, le morceau ultime pour faire la teuf, c'est lequel ?
Pour la boulette. La boulette de Diams. Il y a cette rage, cette colère qu'on ressent encore aujourd'hui et de crier tous ensemble et j'emmène le marine jusqu'à parce que ça fait zizir. Ben, moi, c'est ça la fête. C'est vraiment prendre position et prendre sa place.
Alors ouais, on déconne, ouais, ouais.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.